Il n'a fait plus de garden party, il fait des booms.
Ah oui, c'est ça, oui.
Les anciens, ils faisaient des garden parties.
Ah, lui,
il fait des booms.
Il fait des raptas.
Il fait des raptas intégrales avec concerts et tout. Il fait... C'est la fête, quoi.
Ouais, c'est la fête, ouais.
National.
Voilà, la dernière fois que je l'ai vu, c'était... Il y a eu la finale de la Coupe de France de football. Mais contrairement à l'habitude républicaine, comme on dit, il n'a pas été sur le terrain serrer la pince des joueurs. Il a été dans les vestiaires. Alors, d'aucuns disent que c'est parce qu'il aime bien taper sur les fesses ou sur les épaules des joueurs de football.
Il aime bien cette promiscuité avec les sportifs, on dit.
Mais d'autres disent que c'est pour éviter aussi les sifflets du Stade de France. Hein.
Oh, voilà.
Il a joint l'utile à l'agréable.
Oh, ouais.
Voilà.
Il a eu peur.
Il a eu peur. Et la deuxième fois que je l'ai vu, c'était à la sortie de l'avion. Il est au Vietnam, là, enfin, il est parti en Asie du Sud-Est. Et là, il s'est pris une pêche. Alors, ce dont tout le monde rêvait, une femme l'a faite. Une mère, c'est la.
Elle est mère.
On place cette émission sous le signe des mères. Hein, et c'est donc. Comment ça s'appelle Brigitte qui lui a foutu une baffe. Voilà, c'est un détail.
C'est querelle de ménage et tout, machin.
Bien sûr, pour que ça passe, ces efforts qu'on va devoir faire, il y a une politique de répression. Mais alors là, vous voyez bien que ça n'en finit pas. Hein, entre la criminalisation du soutien à la Palestine, l'islamophobie, c'est même plus.
Les frères musulmans.
Il y a les frères musulmans, bien sûr. Attention.
Là, je me demande, ici, à Campus, crois qu'il y en a.
Ouais, il doit en avoir. D'abord, toi d'ailleurs, Ali.
Ah merde.
Bah oui, tu t'appelles Ali. Donc, t'es musulman. Et que je sache, je te connais des frères.
Voilà. On est foutu. Merde, il y a la police qui arrive.
Alors, il faut pas mettre... on va criminaliser le voile qu'on met... C'est parce qu'on voit tout le temps, hein, je sais pas si vous voyez, mais tout le temps, des petites filles avec des voiles.
Ah oui, c'est vrai.
Ça, on en voit tout le temps.
Donc, il faudra interdire ça.
Mais laissez les gens tranquilles. Les gens, ils les foutent dans la misère. Ils foutent les gens dans la merde. Ils les traitent. Ils les salissent à longueur de temps toute la journée. D'accord ? Et nous, parce que je dis nous, hein. Parce que quand on attaque les musulmans, c'est nous tous qu'on attaque, évidemment. Hein, quand on attaque les chômeurs, comme quand on attaque les fonctionnaires, etc. C'est nous tous...
On attaque les travailleurs.
Ouais, c'est nous tous qu'on attaque. Et nous tous, on sait très bien, si on a une conscience de classe, que autour de nous, il y a des gens de notre classe qui sont un peu paumés, ou qui se trompent un petit peu, ou qui se replient sur eux-mêmes, etc. Donc, j'ai vu une fois une petite fille de moins de 15 ans avec un voile, etc. Ouais, c'est les dégâts collatéraux, si t'as envie de dire ça comme ça, mais de cette société, complètement, où la guerre est faite contre le travail. Comme on voit, ouais, il y a aussi des chômeurs, ouais, c'est vrai, ils cherchent pas du boulot, j'en connais aussi, ouais, ça peut arriver aussi, voilà.
C'est vrai.
Je connais même des fonctionnaires qui travaillent pas beaucoup, ça existe aussi, voilà. Et donc, si on rentre là-dedans, voilà, on va vers la répression. Vers des discours qu'on entend donc là à longueur de temps, bien sûr, à longueur d'antenne, sur les pauvres, sur les misérables. Tiens, je dis les misérables, mais on a vraiment l'impression que à qui va-t-on donner le prix Javert à Retailleau,
ou Darmanin.
Wauquiez, là, pendant lui, apparemment ça ne marche plus, voilà. Et puis il y a toujours Le Pen et Bardella.
Lui, c'est le Retailleau de Rhône-Alpes.
Voilà. Et tout ça permet, bien évidemment, de ne plus parler de Bétarame, par exemple. Ou des choses un petit peu gênantes comme ça, qui peuvent encombrer le gouvernement. Et alors, ça va jusqu'à l'idée de rouvrir des bagnes, quasiment. La question des OQTF qu'on envoie à Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin, c'est du délire total. Pas pour rien que je parle de Javert, hein, et de Jean Valjean et des Misérables. Ça se situe, les Misérables, au début de la première moitié du 19e siècle, avec Louis-Philippe, sous le règne de Louis-Philippe, etc. Et c'est vraiment... C'est le moment où, je pense pas dire de bêtises, où est inventé le concept en France de classe laborieuse, classe dangereuse. C'est-à-dire qu'il y a l'idée qu'il faut ne rien pardonner. Zéro tolérance.
Zéro tolérance.
Et Jean Valjean, zéro tolérance.
Ah bah ça.
Un morceau de pain. Voilà. Et hop, on le poursuit toute sa vie. Et c'est ça, la politique qui est proposé, en sachant bien évidemment que mettre des gens dans les prisons, construire des prisons, etc., ça n'arrangera en rien les problèmes liés à la délinquance, au narcotrafic, etc., puisque ça ne fera que les démultiplier.
Ouais, mais il faut bien les punir.
Ouais, voilà, c'est ça, il faut les punir.
Il faut les punir.
Ah, ils voulaient même
la justice, elle est laxiste.
Voilà, c'est ça, c'est la police qui le dit, évidemment. Ils voulaient même leur interdire les activités ludiques d'Armanin. Darmanin, je l'ai vu.
Darmanin, tu l'as vu.
Je l'ai vu en vrai, je l'ai vu, pas à la télé, je l'ai vu samedi. Samedi matin. Il n'est pas grand, mais bon. Darmanin n'est pas grand.
Pas uniquement physiquement.
Mais il est méchant.
Pas uniquement physiquement. On n'attaque pas le physique.
Non, non, bien sûr. Et je l'ai vu parce qu'il venait à Neuville-en-Ferrien, avec son copain Ledoux, là, les deux députés du coin, parler de la justice et des réformes qu'il envisage. Et on a trouvé là-bas eh bien, des camarades, on va les appeler comme ça, des camarades de la CGT Insertion Probation. Un certain Valentin François qui est responsable syndical et qui est intervenu devant une petite assemblée, c'était à l'invitation de la CGT, d'autres organisations et de la Ligue des droits de l'homme qui était présente, et voici sa prise de parole.
On est le ministre de la Justice là, avec ce... Carrément, merci Sam. Du coup, petit rassemblement aujourd'hui soutenu par différentes organes que je tiens à remercier. Alors, rassemblement organisé par la CGT Insertion Probation, la Ligue des droits de l'homme Roubaix-Tourcoing, avec le soutien du LCGT Tourcoing, Solidaire Nord, la FSU 59-62, également le comité des sans-papiers 59, le syndicat des avocats de France de Lille, le syndicat de la magistrature section de Douai. Donc voilà, on a quand même pas mal de monde derrière nous. Alors, je souhaitais évoquer différentes choses dans ma prise de parole. Donc, je suis Valentin François, membre de la commission exécutive nationale de la CGT Insertion Probation. Mon syndicat représente les travailleurs et travailleuses sociaux, administratifs, psychologues des services pénitentiaires d'insertion et de probation. Je suis par ailleurs militant écologiste. Je le dis juste pour M. Darmanin s'il l'entend par là. Il nous semblait crucial d'organiser ce rassemblement lorsque nous avons appris la tenue d'une réunion publique avec Vincent Ledoux, député, et Gérald Darmanin, ministre de la Justice. Réunion publique sur le thème de comment améliorer la justice. Vous n'avez pas dû manquer le festival d'outrance populiste et poujadiste du gouvernement de M. Bayrou, dont fait partie M. Darmanin, depuis qu'il a survécu à la censure grâce aux voix du Rassemblement National. Celui qui a affirmé que le principal problème de la police était la justice, celui qui a chassé les populations racisées dans les quartiers après l'assassinat de Naël Merzouk ou avec ses opérations Place Nette, celui qui a ordonné les lancers de grenades à Sainte-Soline ou qui a franchi une barrière en faisant voter l'ignoble asile et immigration, avec les voix de l'extrême droite, cette personne est donc désormais ministre de la Justice. Alors, pour reprendre le thème de cette réunion publique, que veut dire améliorer la justice pour M. Darmanin ? Depuis sa désignation le 23 décembre 2024, le garde des Sceaux a exposé une vision claire de la justice. Il s'agit d'une justice digne du 19e siècle, basée sur la répression. L'individu est donc responsable en tous ses effets. La société ne lui doit rien. L'étranger est un ennemi. Il faut donc toujours plus incarcérer et effacer le peu d'humanisme au sein de la justice, en rendant plus martial l'insertion et la probation. Il s'agit de créer une police pénitentiaire, interdire les activités dites ludiques, expulser toute personne migrante condamnée, ouvrir des bagnes en Guyane en surfant sur le passé colonial français, réinstituer les quartiers de haute sécurité supprimés par le Grand Bain d'Arterre, car inhumain, ou créer des prisons en kit. On parle même de louer des places de prison à nos voisins européens. Pourtant, cette politique a honteusement failli. La surpopulation carcérale à des niveaux inégalés le démontre, et les multiples condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme le prouvent. Cette politique rend notre société toujours plus dure et dangereuse, en favorisant la répression des populations les plus fragilisées. Ces dernières s'écartent de la société et développent toujours plus de comportements délinquants. Lorsqu'on répond à la violence par la violence, nous n'obtenons qu'une violence redoublée. De nombreuses études prouvent l'échec de cette politique qui a débuté dans les années 2000. Le rapport de la mission d'urgence relative à l'exécution des peines remis au gouvernement en mars 2025 ou le rapport 2024 du contrôleur général des lieux de privation de liberté rendu le mercredi 21 mai 2025 le démontre en soulignant la gravité de la situation en prison et appelle à une régulation carcérale ainsi qu'à des réductions de peines exceptionnelles comme lors du Covid. Par ailleurs, cette politique est illégale, ainsi que l'a expliqué le Conseil d'État dans sa décision de ce lundi 19 mai 2025, annulant pour excès de pouvoir l'interdiction démagogique des activités ludiques en détention, décidée par les services de M. Darmanin. Rappelons également la décision du Conseil constitutionnel, frappant d'inconstitutionnalité la loi Asile et Immigration. Nos prisons prennent feu et nous détournons les yeux attirés par les sirènes populistes du ministre. Cette atmosphère de guerre et de surenchère met aussi en danger les fonctionnaires qui se retrouvent à avoir peur lorsque les portes des prisons se font taguer et des véhicules brûlés. Nous ne sommes pas des guerriers ou des guerrières, nous sommes des travailleuses et travailleurs sociaux. Alors on parlera de la lettre du ministre du 11 mai 2025 aux magistrats et fonctionnaires du ministère, ou des états généraux de l'insertion probation qui ont commencé cette semaine, tout en vendant de la probation par-ci par-là. Mais qu'attendre d'un ministre qui ne connaît pas les services pénitentiaires d'insertion et de probation ? Qu'attendre de la formule des états généraux, héritée d'une monarchie déclinante sous l'aube de la Révolution française ? N'oublions pas les cahiers de doléances des gilets jaunes qui n'ont rien donné et le refus actuel du pouvoir de les rendre publics. Nous n'attendons donc rien à part de la désillusion et de l'autoritarisme. Et nous nous rendons compte que le principal problème de la justice, c'est son ministre. Et pourtant, il existe d'autres chemins, comme la réelle remise en cause du tout carcéral, un accompagnement social réinvesti et puissant, ainsi qu'une véritable implication de la société dans la prise en charge des personnes défavorisées. Mais ce n'est pas l'objectif de ce gouvernement, et plus particulièrement de ce ministre. Les ambitieuses ambitions de l'ambitieux ne visent que la future présidentielle, et peut-être les municipales à Tourcoing. M. Darmanin semble se vivre plus candidat que maire, ministre ou président au détriment de ceux et celles qui croisent son chemin. Mieux vaut une bataille avec son alter ego, M. Retailleau, plutôt que l'intérêt général. Malgré toute la violence ambiante, sachez qu'ici nous avons choisi le camp de l'humanisme et de la sociale. Notre société n'est pas celle de la guerre contre tous, de tous contre tous. C'est pourquoi vous nous trouverez sur votre chemin pour vous rappeler que vous avez tort et que vous êtes comptable de vos politiques politiciennes brutales. Pour la paix, nous nous battons pour la famille d'Aboubacar Cissé, tué dans un attentat islamophobe, où un ministre a mis plusieurs mois, plusieurs jours pour venir. Nous nous battons pour Gaza, victime d'un génocide doublé d'une famine, pour la Kanaky colonisée et réprimée, pour l'Ukraine déchirée, pour Haïti bafouée et endettée, et pour le Congo ou le Soudan meurtri. Pour la paix, nous nous battons pour les emplois menacés d'ArcelorMittal à Dunkerque, de la Redoute de Roubaix ou de Outinor à Saint-Amand-les-Eaux. Pour la paix, nous nous battons pour les humains et les humaines, peu importe leur couleur de peau ou leur religion, qui n'ont plus de sous dès le début du mois et qui s'affaissent au cachot du désespoir, pour paraphraser Aimé Césaire. Merci les camarades d'être là.
Hey les mecs, c'est fini. J'emmène loin d'ici la mauvaise graine de mes soucis qui a fleuri à Cayenne. Cayenne, captivité pas bon. Cayenne, tentative d'évasion. Cayenne, la prison quadrillée. Cayenne, niquée par les képis. Cayenne, des matons, des catis. Cayenne, quasiment déphasé. Cayenne, plaidoirie kamikaze. Cayenne, l'avocat dégoûté. Cayenne, lui manquait quelques cases. Cayenne, système pénitentiaire. Cayenne, condamner l'accusé. Cayenne, à purger l'eau de peine. Casser des cailloux à Cayenne. 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 Casser des cailloux.
C'est toujours l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus. On pourrait aller à dire « Abat toutes les prisons » parce que c'est ce qu'on pense au fond de nous-mêmes, hein, tout au fond de nous-mêmes. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils veulent en construire. C'est parce qu'ils sentent bien que... vous avez vu ces attaques contre les prisons, t'as vu, contre les prisons, là. Alors, j'ai pas bien suivi par la suite, on nous dit c'est le narcotrafic, etc. Il y avait des espèces de... Alors, peut-être c'est aussi les trafiquants qui ont une certaine habileté d'avoir présenté ça sous un jour politique sur le droit des DDF, c'est ça, le droit des prisonniers français, un truc comme ça.
Peut-être.
Enfin, les détenus français, enfin, voilà. Et puis, je sais pas si t'as suivi, là, il y a eu des pannes de courant, là, dans le sud, là, sur la Côte d'Azur, là. Il y aurait eu du sabotage, on parle de groupes anarchistes, etc. Voilà.
On a saboté le festival de Cannes.
Voilà. Tout ça, ça va monter, évidemment. C'est pas qu'on le souhaite, hein, parce que nous, on n'aime pas le Hamas.
Ah non, c'est peut-être l'ultra-gauche.
Ouais, bon, c'est la même chose, l'ultra-gauche. Et les islamo-gauchistes et tout ça, voilà. Mais il y a une peur qui monte dans le camp d'en face. Et c'est mécanique, hein. Évidemment, il va y avoir des sabotages, des choses comme ça, des violences qu'on condamne par avance. Il va y avoir des violences, bien évidemment, mais d'abord, surtout contre nous, y compris ceux qui nous représentent, puisque on voit aussi cet acharnement contre la France insoumise, hein, pour ne pas les citer. Ils doivent avoir des sondages, eux, qui ne sont pas ceux qu'on voit, quoi, parce que pour y aller aussi fort...
Ah oui, mais il ne se passe pas une journée, en fait, sans qu'il y ait un
voilà.
député ou...
Et même,
ils parlent tellement de Mélenchon tous les jours,
ouais.
pour le dénigrer, pour le salir,
ouais,
etc.
Ça marche pour nous.
Et puis, il y a des jours, j'ai l'impression que c'est lui le président, en fait. On ne parle que de lui.
Ouais, et puis, bon, ça... Donc voilà, on vous l'a dit, on va vous laisser avec un quart d'heure en Palestine qui durera un peu plus d'un quart d'heure, c'est sûr, et avec Mustapha Barghouti, juste le temps de rappeler que ce quart d'heure en Palestine est une rubrique historique de cette émission, qui n'est pas moins historique, puisque
historique.
Nous fêtons nos 30 ans
de l'émission. C'est ça.
En tout bien, tout honneur et en toute modestie, et qu'il y a désormais maintenant 24 ans, nous avons lancé cette rubrique, un quart d'heure en Palestine, qui, pendant une bonne une quinzaine d'années a consisté notamment, souvent, non seulement à recevoir des gens dans les studios et parfois des Palestiniens, mais aussi à avoir des directs par téléphone avec les Palestiniens.
Avec des Palestiniens, avec des gens, des gens qui sont allés là-bas.
Ou des gens qui sont allés là-bas, etc. Ouais, et donc, ouais. Mais il y avait un contact permanent avec les Palestiniens. Et là, je pense à Gaza, notamment, notre contact à Gaza a été le monde pro-palestinien, comme on dit en France, le connaît bien, c'est Ziad Medour, dont on peut juste vous dire qu'il est encore en vie actuellement à Gaza et que a priori, ses enfants sont aussi en vie. Par contre, bon, ses neveux, ses frères, etc., sont fait abattre. Voilà, c'est lui qui nous avait mis en contact avec Ala Al-Najjar, hein, qui la mère de famille qui a perdu 9 de ses enfants il y a quelques jours.
Voilà, on a fait cette rubrique pendant longtemps. Et puis, bon, ça s'est devenu difficile de faire ça chaque semaine. Hein. Vous imaginez bien que c'est du boulot. Et puis aussi, il s'est passé, c'était en 2000... quand est-ce qu'est né ton fils ou ta fille quand est-ce qu'ils ont coupé l'émetteur, là
2004.
Ah, ouais, ouais. C'est
2003.
C'est en 2003 qu'on a coupé. Ouais, parce qu'on faisait un carnaval en Palestine avec un représentant vraiment officiel des prisonniers palestiniens. Donc voilà.
Et puis l'antenne a été coupée.
Et l'antenne a été coupée.
De façon inexplicable.
De façon inexplicable. Et elle est restée quand même coupée. Pour les auditeurs de campus qui ont un petit peu d'âge, elle est restée coupée plus de 2 mois, me semble-t-il. Pour des raisons qui sont restées inexplicables. Mais c'était au moment où. Voilà. Donc tout ça a fait qu'avec le temps, après, bon, c'est avec les difficultés, les réseaux sont souvent occupés hein, en Palestine. Tout est occupé.
Tout est occupé.
Voilà. Donc, a fait qu'on n'a pas abandonné cette rubrique, mais que on l'a, comment dire, elle nous a demandé un petit peu moins de temps. Là, il a suffi d'aller poser un micro et d'avoir notre camarade Seb de l'émission On passe au rouge, qu'on écoute tous les lundis à 19h.
Sur cette même antenne.
Sur cette même antenne, qui a fait un petit travail de post-production, on dit, c'est ça de...
Ouais, enfin, il a fait un montage, un
il
bon
a fait
montage.
Un montage. Il a fait un bon montage. Et donc, on va entendre Mustapha Barghouti, donc, je le disais en début de cette émission, qui s'est présenté à une époque comme une alternative à la fois au Hamas, c'est en Cisjordanie, où le Hamas est un petit peu moins prégnant que Gaza, et une alternative en même temps au Fatah corrompu. Je parle de celui qui est corrompu, parce que tout le Fatah n'est pas corrompu, donc en Cisjordanie, avec notamment l'autorité palestinienne, qui est... Enfin, je veux dire, qui est né avant la honte, quoi. Hein. C'est une catastrophe. Et c'est lui qu'on va entendre. Il est venu à Lille.
Là, maintenant. Le 22 mai.
Le 22 mai.
À la Bourse du Travail.
Voilà. C'est le quart d'heure en Palestine, et c'est maintenant, parce que c'est l'heure de le mettre. Et qu'en plus, on est sur Radio Campus.
106,6.
Et campusville.com.
Un quart d'heure en Palestine.
What we face in Palestine is maybe the most dangerous.
La Palestine est en train de fait face en fait à la situation la plus dangereuse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à savoir que effectivement, selon lui, il y a 3 crimes de guerre concomitants auxquels effectivement la Palestine fait face en ce moment, à Gaza, en Cisjordanie, et puis il est question effectivement de crimes de guerre qui relèvent du génocide, de nettoyage ethnique. Oui, et puis punition collective.
The war crime of collective punishment. I think you know the numbers, but just to remind you, they have killed.
En cette date, donc du 14 mai, il y a eu environ 100 morts donc en Palestine. De façon générale, depuis donc le 7 octobre, il y a eu environ 62 000 morts et 120 000 blessés, sur lesquels il revient un peu plus tard. Parmi ces 62 000 morts, il y a donc 18 000 enfants. Et il va de soi, selon lui, que Trump, bien sûr, ne se souvient pas de tout ça, puisque Trump ne se souvient que de ce qui s'est passé, effectivement, en Israël. Parmi les 120 000 blessés, il faut savoir que 11 000 environ sont susceptibles de mourir donc, dans les jours ou dans les semaines qui viennent, précisément parce que ces personnes n'ont pas accès aux services de santé, notamment parce que, vous l'aurez compris également, les hôpitaux donc, sont dans un très triste état, sont systématiquement bombardés, et l'hôpital européen lui-même, en fait, donc construit avec des fonds européens, a fait l'objet donc d'un bombardement avec une trentaine de bombes, dont le poids de chaque bombe équivaut à environ une tonne chacune.
Each of which is one ton, 1,000 kilograms. This means that through on Gaza more than 100,000 tons.
Environ 100 000 tonnes d'explosifs en fait ont été donc déversées sur le territoire, ce qui équivaut en fait à un total de plus de 5 fois ce qui a été donc jeté donc sur Hiroshima et Nagasaki à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ce qui équivaut également à 50 kilos d'explosifs pour chaque homme, femme et enfant de Gaza, en prenant en compte bien évidemment le fait que la plupart des enfants ont un poids individuel qui est inférieur à 50 kg. Et que pour parler non plus des personnes humaines, mais en fait des bâtiments, 90% des bâtiments de Gaza en fait ont été détruits depuis donc le 7 octobre.
They killed and injured 10% up till now of the population of Gaza.
10% de la population donc de Gaza a été soit tuée soit blessée depuis le début du conflit. Si on rapportait en fait ces données-là à la population française, ça équivaudrait en fait à un total de 6 millions de Français et de Françaises qui seraient soit tués, soit blessés. Et si on pensait effectivement en termes de population des États-Unis, on aurait l'équivalent de 33 millions de personnes états-uniennes qui auraient été soit tuées, soit blessées donc depuis le début. Et bien évidemment, il pose la question de savoir qu'est-ce que feraient les États-Unis dans une situation où en fait 33 millions de sa population seraient soit tués, soit blessés. Bien évidemment, les États-Unis enverraient des bombes atomiques un peu partout dans le monde pour bien évidemment cibler les ennemis identifiés.
Actually, the number of people killed or injured in Gaza.
Le nombre total de tués ou de blessés en Palestine équivaut à un nombre qui est supérieur au nombre de tués ou de blessés qu'ont dû subir les États-Unis depuis leur indépendance, c'est-à-dire en incluant toutes les guerres auxquelles les États-Unis ont pu participer. Le nombre total donc, de tués ou de blessés en Palestine équivaut à un nombre supérieur à celui au bilan total en fait, des morts ou des blessés allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
Actually, it's also larger than what Germany lost in the Second World War. Today, 73 days have passed since Israel. This is the kind of collective punishment.
Depuis 73 jours, l'État d'Israël donc impose une situation de punition collective à Gaza, ce qui veut dire concrètement qu'il n'y a pas en fait le moindre pain, il n'y a pas le moindre verre d'eau qui est donc autorisé à l'intérieur du territoire de Gaza. Et ce qui concrètement veut dire que 75 000 enfants se trouvent dans une situation donc, de sous-alimentation, de malnutrition. Et ces enfants sont bien évidemment susceptibles de mourir dans un avenir plus ou moins proche. Et que de la même façon, donc, il répète qu'Israël empêche systématiquement l'arrivée d'eau propre et d'eau buvable, ce qui a des conséquences donc, en termes de santé et d'hygiène qui sont assez considérables. Lui-même fait du bénévolat auprès d'une association qui s'appelle Palestinian Medical Relief Society, qui donc inclut 18 équipes en tout, qui sont toutes issues de Gaza et qui sont toutes des services, qui sont toutes constituées en fait de services médicaux. Donc cette association lui fait savoir que chaque mois, elle traite les situations d'urgence donc de 200 000 personnes. Et que parmi ces deux, parmi en fait le bilan que dresse cette association depuis ces 73 jours, il faut savoir qu'il y a 112 000 personnes qui ont déjà contracté une hépatite infectieuse qui effectivement est extrêmement préoccupante.
Hépatite, because there is no clean water and no clean food. Not only they don't allow food and water, they are not allowing vaccine. To go to Gaza.
Ils empêchent systématiquement que la population de Gaza donc, ait accès à des vaccins, ce qu'il décrit comme un comportement de sauvage, en fait, un comportement de sauvagerie. Ce qui veut dire concrètement que dans un avenir assez proche, il est très possible que des épidémies dont un certain nombre avait disparu depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, pourraient donc réapparaître à Gaza, des épidémies comme la polio, la diphtérie et le tétanos. Et le plus sauvage là-dedans, c'est que l'armée d'Israël, le gouvernement d'Israël, en fait, vaccine les propres soldats de l'armée israélienne l'expectative, dans l'hypothèse que, effectivement, ces épidémies vont réapparaître et que donc il incombe au gouvernement israélien pardon, de vacciner donc ses propres soldats. Ce qui, clairement, concrètement, montre que l'État d'Israël est en fait en train de mener une guerre biologique qui cible directement le peuple de Gaza.
They are using biological warfare to create epidemics in Gaza. And when we talk about ethnic cleansing, Israel already forced more than 90% of the people of Gaza to be displaced.
Aujourd'hui, 90% de la population de Gaza fait face à une situation de déplacement forcé. Et il rappelle également des faits historiques qui sont que depuis la Nakba, à Gaza, effectivement, il y a 90% des habitants qui eux-mêmes ont été des réfugiés en 48. Mais que dans la situation plus récente, il se trouve qu'il y a eu des déplacements de population, donc des déplacements forcés de population, non pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais parfois beaucoup plus de fois que ça, jusqu'à atteindre 16 fois, et il invite toutes les personnes présentes ici à imaginer une seule seconde ce que ça vous ferait à vous, en fait, ce que ça nous ferait à nous, d'être bombardé, et puis d'avoir donc sa maison qui est bombardée, ou son appartement qui est bombardé, avec nos habits, nos souvenirs, un certain nombre de choses qu'on a chez nous, que si on a la chance de ne pas être tué dans le cadre de ce bombardement, en fait, on se retrouve à devoir errer, chercher une tente avec un minimum d'affaires avec nous, et qu'on peut, en fait, être systématiquement déplacé. On va se retrouver à chercher une tente, à être dans la rue, et qu'à chaque fois qu'on trouve une tente, en fait, on sera susceptible d'être de nouveau déplacé de force. Et il parle également de la situation dans le camp de Jenin, où effectivement le même traitement par l'État d'Israël est imposé. Monsieur Netanyahou ne cache pas du tout ses intentions. En fait, il est très très honnête avec ce qu'il veut faire, puisqu'il a dit tout récemment que son ambition était de veiller au déplacement forcé, en fait, de la population de Gaza, donc depuis le nord et le centre jusqu'au sud. Aujourd'hui, donc, la ville de Rafah a été complètement anéantie, complètement détruite. Hein, et M. Netanyahou n'est pas non plus... Il est au moins très très honnête, dans le sens où il a dit et redit que son but était finalement de créer, de veiller à mettre en place finalement le camp de concentration le plus grand au monde, avec 2,1 million de personnes, et que ce faisant, il a dit qu'il voulait mettre en place, en fait, mettre en pratique la vision qui est celle de Donald Trump. Il insiste également Moustapha Barghouti insiste également sur le fait que le nettoyage ethnique, bien évidemment, peut s'envisager comme le pire crime de guerre qu'on puisse envisager. Maintes fois condamné par le tribunal pénal international, et que ce qui est intéressant avec la situation actuelle, c'est que c'est un crime qui est vraiment complètement déclaré, complètement délibéré, sans aucune intention de dissimuler ce qui se passe aux yeux du monde.
By a war criminal who is wanted already to the International Criminal Court. And I'm not surprised, because what we see in Palestine is not just occupation.
Ce qu'on voit aujourd'hui en Palestine, c'est pas seulement une politique d'occupation, une politique d'apartheid qui renverrait finalement aux événements de 1948, mais c'est vraiment une politique d'occupation, de plantation, en fait, de plantation coloniale, à l'image effectivement de ce qu'on a pu voir dans d'autres situations coloniales de l'histoire du monde.
They did in 1948 to the rest of Palestine, very clearly. In 1948. Not everybody knows that.
En 1948, et ça tout le monde ne le sait pas, Israël il a donc déplacé 70% des personnes, donc à l'occasion de ce qu'on appelle la Nakba communément. Mais ce que beaucoup de personnes ne savent pas nécessairement, c'est que à cette occasion, il y a en fait 523 villages entiers qui ont été totalement détruits.
523 Palestinian villages and communities. Today, regardless of occupation, regardless of oppression.
Malgré l'oppression, en fait, nous autres Palestiniens, à la fois à Jérusalem, à la fois à Gaza, à la fois en Cisjordanie, et puis à la fois, en fait, dans les territoires qui étaient les territoires palestiniens de 48, il y a environ 7,3 millions de personnes. Et à côté de ça, les Israéliens, en fait, sont 7,1 millions de personnes. Que l'on inclut, ou pas, en fait, les peut-être 1 million et quelques d'Israéliens qui ont quitté le pays. Et il dit, voilà, aujourd'hui, le fait est que démographiquement, nous sommes une majorité. Il insiste également sur le fait que l'État d'Israël ne veut pas une solution à deux États. cette, cette solution à deux États qui est préconisée au moins dans les discours donc, dans un certain nombre d'États donc, qu'on appellera occidentaux pour aller vite. Ils ne veulent pas en fait en Israël un État démocratique, une démocratie libérale hein, avec des droits égaux, des droits de base qui sont ceux de toutes les démocraties. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est en réalité le nettoyage ethnique. Le nettoyage ethnique en fait. Avec ou sans le 7 octobre, nous dit-il, ce qui est clair, c'est qu'il y a ce plan sioniste d'évacuation de la Palestine et qu'en fait, le 7 octobre n'est pas le début de quelque chose, c'est plutôt en fait la résultante d'une politique sioniste donc délibérée et puis bien réfléchie.
This is the reality. 7th of October was not a beginning, was not a start. 7th of October was a result of the Israeli Zionist policy in Palestine. Before 7th of October, not only we had occupation and everything, Gaza was under siege since 2006. I was there when they imposed siege on Gaza in 2006.
Avant le 7 octobre, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà un siège de Gaza depuis 2006 et que donc, depuis environ 18-19 ans, il y avait ce siège, effectivement, de la bande de Gaza qui était en place et que lui-même, donc, dit « j'étais moi-même donc, présent donc, depuis 2006 ». Et qu'il faut penser effectivement à ce qui s'est passé avant le 7 octobre. D'autre part, plus récemment, en fait, en septembre 2023, autrement dit un mois environ avant le 7 octobre, Monsieur Netanyahou lui-même, en fait, à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, n'a pas eu la moindre honte, n'a pas eu le moindre embarras, en fait, à montrer une carte d'Israël qui présentait en fait l'annexion notamment de toute la bande de Gaza. Et ce jour-là, en fait, personne au sein de l'ONU ne s'est ouvertement donc opposé à son projet. Ce qu'il faut savoir également, c'est que cette possibilité effectivement d'une annexion totale de la bande de Gaza, elle fonctionne également à travers la normalisation des relations avec un certain nombre de pays arabes, hein, donc qui a été donc promu notamment par Donald Trump, et que pas plus tard qu'hier, en fait, lorsque Donald Trump a discuté avec les nouveaux leaders syriens, une des priorités finalement, c'était de veiller à ce que le nouveau gouvernement mis en place en Syrie, finalement, ait des relations cordiales et reconnaisse effectivement l'État d'Israël, ce qui n'inclut pas, bien évidemment, la moindre discussion par rapport à la restitution du plateau de Golan, par exemple.
Before the 7th of October, Israel passed a law in the Knesset, Israeli Parliament.
Avant le 7 octobre, le gouvernement Netanyahou a fait passer une loi à la Knesset, qui était une loi qui a été votée par tous les partis de gouvernement, aussi par l'opposition. Cette loi, en fait, insiste sur le fait que le droit à l'autodétermination sur toute la Palestine historique, hein, donc qui inclut Gaza, la Cisjordanie et puis Jérusalem Est, que en fait ce droit d'autodétermination sur toute la Palestine était exclusivement réservé aux seuls juifs.
The right of self-determination is exclusive for Jewish people.
تذكر حالي صبي صغير واقف عمري كله بخيالي جمهور قبالي رد وراي حامل ريمون بايدي انه مايكروفون قال وشوش اغاني بس الصوت براسي عالي ساعات بقول باخر الحلم لما تحقق ساعات بذكر حالي لا تحقق كم عظمة طقطق ساعات ثابت ساعات ملقلق ساعات بحكي بسرعة مثل اودي ساعات بتقتل ساعات صحي ساعات توكسيك ساعات رابر مر ساعات دسلكسيك ساعات بهوش ساعات غرقان بماضي بعيد ساعات بفوش ساعات طمعان برضا الله ساعات قروش ساعات بقبض حالي بروق ساعات بضوج ساعات بروق عالصبوحة ساعات علوش ساعات مربطين ايدي بشفرة مشطة بيني مو ساعات يلزمني هستمين لأعرف انتو مين ساعات بفبرز ساعات بدبرز ساعات بطفي ساعات بهبرش ساعات بمايند فك ساعات متكتك عم دمتك مع جنسك ساعات منقوك بشك براسي ميت شك ساعات ماسك قلبي ساعة عزبالي بكبه ساعات بحبك ساعات حالي ما بحبه ساعات لساني ست امتار ساعات بطبه ساعات رجل آلي بلا مشاعر سايكلبه ساعات ماكن بيتماكن ماشي عالتيمبو ساعات مكركب عالإيقاع عم بعرج جنبه ساعات خايف من خيالي ساعات رامبو ساعات جاهز ومستسلم يبلعني الليمبو
An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times when every day is a matter of survival.
كل ما فكش اللي ثابت بحياتي بيطلع معي ثابت واحد ما في غيره ثابت لا ثباتي ساعات ليل ساعات صخر صلب ساعات هين ساعات راسي صعب ساعات بكون الساعة أنا وساعة زنبرك ساعات عليش 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 ساعات كنبرة ساعات بصادق إني يهوب ساعات بدروين ساعات بدخن بنبسط ساعات ببروين ساعات يسحرني لطف الدنيا ساعات عذابة ساعات سكركي ساعات عتابة ساعات حرام ساعات حلال ساعات باراس جيرو كوين ساعات لقال ساعات بصدري سما ساعات بصدري فيل ساعات الوقت تقيل جبل ساعة حبة هايل ساعات بركض ساعات مالي حيل إلا كون رخيها قاعد عم كس أم إسرائيل ساعات بيدي جوجو ساعات مسبحة ساعات بقلب ريل ساعات صور مذبحة ساعات براسي في كورنيش بيروح شيش تعفيش ساعات شبيحة وحبيش وجيش ساعات الدولة بجزمة عسكر ساعة بجيب جيبي ساعة بثورة شعب ساعة بحفل انتخابي ساعة بيبهرني السؤال ساعات الإجابة ساعة باب المندب ساعات المندب عبابي ساعات مثل ليفل سكيلز زقوم سم بطلع بالفضم شوير نور يم ساعات واقف ورا الحق ساعات جنبه ساعات جاهز ومستسلم يبلعني الليمبو
Don't forget that what they are doing in West Bank too. We have now eviction of people from three refugee camps, Jenin, Tul Karim, Nur Shams, and they start to attack other refugee camps like Faraa and Balata.
Ce qui se passe en Cisjordanie est souvent en fait finalement oublié, ou en tout cas passe un peu comme étant secondaire par rapport à ce qui se passe à Gaza. Et donc on assiste aujourd'hui à l'éviction d'au moins trois camps de réfugiés, dont ceux de Jenin et de Tul Karem, et que en fait, depuis le 7 octobre, l'État d'Israël a arrêté environ 17 000 Palestiniens, hein, donc qui sont détenus dans des conditions qui sont très souvent secrètes, mais dont on sait qu'elles sont vraiment absolument horribles, puisque on affame un certain nombre de ces personnes, on les torture, et que donc depuis le 7 octobre, on sait que 60 personnes ont été torturées à mort, sont mortes de torture, donc en Cisjordanie. Et qu'il y a également des milliers de personnes qui sont détenues dans des camps de concentration dont on peut supposer qu'un certain nombre de ces personnes ont pu déjà être donc exécutées en masse.
Many, many leaders in the West speak about the Israeli captives. They never mention the Palestinian prisoners.
Beaucoup de leaders du monde occidental, hein, des démocraties occidentales, n'ont de cesse de parler effectivement de la libération, du débat autour de la libération des otages israéliens donc depuis le 7 octobre, mais il est très clair qu'on parle très très peu, voire pas du tout, en fait, de ce qui se passe avec ces prisonniers donc palestiniens, notamment détenus en Cisjordanie. En fait, les leaders donc, palestiniens à Gaza sont prêts effectivement à libérer tous ces otages, contre la libération d'un certain nombre de ces prisonniers palestiniens et contre, bien évidemment, la fin de la guerre. En fait, ce qu'ils souhaitent, c'est vraiment mettre fin à la guerre. Mais Netanyahou, de toute évidence, en fait, se moque de cela, et en fait, il se moque aussi de l'éventualité que ces otages israéliens eux-mêmes puissent être tués. Lui, visiblement, ça ne l'intéresse pas. Alors, il y a 3500 donc, de ces prisonniers palestiniens qui sont en détention administrative, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune charge légale qui pèse contre eux, au plus grand mépris, en fait, des règles de droit international.
Is of course a violation of international law. In fact, few people know that Israel is imprisoning not only 260 children and thousands of prisoners, but they also are imprisoning 660 Palestinian bodies.
Il y a également aujourd'hui donc 260 enfants qui sont prisonniers. Et ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'il y a aussi, au-delà de ces milliers de prisonniers palestiniens dont on a parlé, il y a 660 corps palestiniens, en fait, donc des dépouilles palestiniennes de personnes qui ont été tuées, qui ne sont pas libérées. Et donc l'État israélien, de manière très très délibérée et cynique, se livre à une sorte de guerre de torture psychologique auprès des familles palestiniennes donc, qui sont affectées, bien évidemment, par ces décès. Et que dans un certain nombre de cas, ça peut durer depuis des années. C'est-à-dire que dans le pire des cas, il y a en fait des corps palestiniens qui sont conservés depuis 56 ans.
I went to Jenin camp and I met a mother whose child who was 15 years old was shot by the Israeli army and killed.
Il s'est rendu donc au camp de Jenin assez récemment et là-bas il y a rencontré en fait une mère dont le fils qui avait 15 ans est mort. Et, mais bien évidemment elle n'a pas accès en fait à son corps et elle dit tout ce que je veux moi en fait c'est le corps de mon fils pour pouvoir disposer d'une tombe.
320 of my colleagues, doctors, nurses, health professionals were killed by Israel. 320. Many were imprisoned and still are in jail.
Il y a eu également 320 collègues en fait au sein de son association qui sont morts, souvent des médecins, du personnel hospitalier, des infirmiers, des infirmières, énormément de prisonniers parmi ces personnes, donc étaient d'abord prisonnières et puis après sont décédés ou sont encore prisonnières et sont quelque part, on ne sait pas où. Et en fait, ça n'a pas été médiatisé puisque il n'y a aucun journaliste international, comme vous le savez, qui sont donc, qui ont le droit donc d'avoir accès à Gaza. C'est pas non plus un hasard si en fait 216 journalistes palestiniens ou palestiniennes ont été tués. C'est un acte délibéré en fait de la part de l'État d'Israël, qu'il est important en fait de se dire et de répéter. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en face de vous, en fait, ils vous donnent toute cette litanie de statistiques et de chiffres, précisément pour qu'on ait une idée de ce qui est en train de se passer devant nous. Ce ciblage systématique en fait, des journalistes palestiniens est sans précédent, puisque dans aucune guerre moderne, un tel événement ne s'est passé. C'est-à-dire cette volonté vraiment délibérée de cibler en particulier les journalistes pour que les gens, au-delà de la Palestine, puissent avoir accès à l'information.
We have now to deal with 30,000 orphan children.
Il y a également, en plus de ça, donc 30 000 enfants qui sont orphelins et qui donc ont des besoins en matière d'accès à la nourriture, en matière d'accès à l'éducation, et puis ont besoin d'amour, d'accompagnement, de famille en fait. Il y a également 4 000 personnes qui sont amputées, soit d'une jambe, soit d'une main, soit d'un bras, et donc un des moments les plus difficiles qu'il a eu auquel il a eu à faire face ces derniers temps. C'est ce moment où en fait un collègue à lui, donc qui est médecin, lui a dit qu'en fait, après avoir visité une maison qui venait d'être bombardée, il a dû en fait amputer la jambe de son propre neveu sans la moindre anesthésie.
And this, by the way, happened more than once. One of the most difficult videos I had to watch.
Une des vidéos les plus horribles qu'il a vues, c'est cette vidéo d'un enfant en fait de 5 ans qui était amputé des deux mains et puis qui implorait en fait son père, qui ne savait pas exactement ce qui lui est arrivé, et qui implorait son père en lui demandant quand je grandirai, est-ce que mes mains vont elles-mêmes repousser quoi. Et donc le père était bien évidemment en pleurs et ne savait pas du tout quoi répondre.
One of the cases we had, one of our colleagues was with his family. He left the place where the shelter to buy some food. He came back to see that the house was bombarded.
Alors il parle de deux situations très difficiles. Premièrement, le cas d'un collègue qui, donc avec sa famille, a quitté en fait son abri et qui, lorsqu'il est revenu, a réalisé qu'en fait sa femme, sa fille, ses trois sœurs, sa mère et ses deux frères avaient été tués. Et donc, bien évidemment, il ne savait pas du tout quoi lui dire et il demande à nous qu'est-ce que vous pourriez lui dire, lui, si vous aviez, si vous étiez en conversation avec cette personne. Et d'autre part, il parle aussi de la situation d'un père de six enfants qui n'étaient pas du tout des personnes impliquées en fait dans la lutte armée en Palestine hein, et qui étaient en train de cuisiner pour la communauté locale, hein, pour venir en aide en fait à la population locale aux alentours. Et en fait, ce père de six enfants, ces six enfants en fait ont été tués dans une sorte de cabane, quoi. Israël en fait a tué tout le monde en une seule attaque. Et il a eu donc au téléphone le père en question, et bien évidemment, comme dans la situation qui a été décrite précédemment, il n'avait pas du tout les mots pour entrer en conversation, entrer en interaction avec cet homme-là. Et toutes ces choses-là, en fait, expriment, illustrent la résilience extraordinaire en fait du peuple de Palestine. Et il nous demande en fait de finalement baisser la tête. En reconnaissance modeste, finalement, de cette résilience extraordinaire, en fait, du peuple palestinien.
This is the kind of resilience people have in Gaza, and that's why I think we should all, everybody in the world, the question is to you, especially to people in Europe, and to the people of the world everywhere. Where is international law? I feel traumatized myself because I believed those who used to visit us from the West to teach us about international law, international humanitarian law, non-violence, democracy. Where are they? Where are they? Where are they?
Pour vous, pour nous, donc en Europe, et puis pour le monde entier, en fait, hein, où est le droit international? Où est le respect du droit international? Il insiste sur le fait que la Shoah n'a pas été seulement le travail des criminels nazis, c'est pas seulement l'œuvre horrible en fait des criminels nazis, mais c'est aussi finalement surtout la résultante du silence en fait de personnes qui ont été très lâches et qui ont regardé ailleurs quand c'était en train de se faire ou quand c'était en train de se préparer. Et en fait, de la même façon en Palestine aujourd'hui, le génocide est rendu possible principalement par la lâcheté de personnes qui habitent à l'extérieur de la Palestine et qui regardent ailleurs ou rechignent à faire imposer très simplement le droit international.
This is the reality. The cowardness in applying human respect to those who need support when they are subjected to injustice like the ones who are in Palestine today. What is the difference between Hind Rajab, who was a 6-year-old child?
Quelle est la différence entre un événement donc, qui est sans doute assez connu par un certain nombre d'entre vous, qui est cet événement où en fait un enfant de Gaza, une fille de 6 ans, qui a été donc tuée par des soldats israéliens, elle-même et ses frères et sœurs en fait étaient menacées par des soldats israéliens et en fait elle a demandé de l'aide au téléphone pendant plus de 3 heures, la ligne téléphonique fonctionnait. À l'arrivée de l'ambulance, en fait, donc tout ça a été enregistré, donc c'est des choses qui sont documentées. Hein. À l'arrivée de l'ambulance, en fait, l'armée israélienne a tué donc tous ces enfants-là, et puis a détruit l'ambulance. Et donc c'est un tank israélien qui a fait ça. Et il pose la question, quelle est la différence entre cet événement-là qui est vrai, qui est documenté et qui n'est pas fantasmé, et puis le sort qui a échu donc à Anne Frank et qu'on connaît tous bien évidemment en Europe.
Israël would not have dared, Netanyahu would not have dared to do what he is doing.
Israël, en fait, n'aurait pas son Netanyahou sans la complicité silencieuse de un certain nombre d'États, donc les États occidentaux en général, et il pointe en fait un deux poids deux mesures entre ce qui se passe actuellement en Palestine et puis Israël, enfin ce qui se passe à Gaza et puis donc Israël, et puis bien évidemment la situation de la Russie avec l'Ukraine. Il faut savoir qu'en fait, pour illustrer ce deux poids deux mesures qui est très très clair, les États occidentaux ont imposé environ 11 000 sanctions contre la Russie donc en moins de deux mois. Alors qu'il n'y a pas de sanctions, en fait, contre l'État d'Israël. Or, il n'y a pas de génocide actuellement qui est donc perpétré par M. Poutine, à l'inverse de ce qui se passe donc, à Gaza actuellement. Hier soir, donc, M. Macron, à la télévision française, a dénoncé la politique de Netanyahou en disant que, bien évidemment, elle était honteuse, cette politique. Et il a insisté sur la nécessité de renforcer les sanctions existantes. Or, nous demande-t-il, Mustapha Marghouti, quoi, il lui dit, mais elles sont où ces sanctions? Elles n'existent pas, en fait. Il n'y a pas de sanctions.
Nothing. Nothing in the world. Not Israel. Not anybody else will be able to break us, the Palestinian people. We will never, never be broken. I lived my life under occupation. So the first intifada, the second intifada, the wars in Gaza. I was in Gaza in 2008, 2012, 2014. This time they didn't let us go there. But I tell you, from what I've seen, whatever they do, we will stay in Palestine. They will not break us. We are ready to struggle with every breath in our life. They will not break us, like they couldn't break the people of Vietnam.
j'arrête.